Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Paul Klee, l'ironie à l'œuvre. C'est l'exposition Paul Klee de l'année ou de la décennie. Paul Klee célébré au centre Georges Pompidou à Paris entre le 6 avril et le 1er août 2016. Ce n'est bien sûr pas la première exposition Paul Klee à Paris. En 1969, ainsi qu'en témoigne l'émission qui suit, Art et esthétique, le musée d'art moderne avait déjà réuni 200 pièces de Paul Klee en provenance de Suisse. Cette exposition permettait aussi de revenir sur une exposition plus ancienne, 1948, 8 ans après la mort de l'artiste, organisée par le même musée d'art moderne. La poésie picturale, la rigueur poétique, qui ne faisait pas de Klee un logicien sec. L'humour de Klee, humour qualifié de métaphysique. La comparaison rapide avec un autre artiste majeur du XXe siècle, Paul Klee a plus de variété dans son œuvre que Picasso lui-même. Art et esthétique, Paul Klee par Michel Zerafa et Raymond Bellour, avec Françoise Nora, Isabelle Fontaine et René Passeron. Première diffusion sur France Culture le 24 décembre 1969.
La peinture ne reproduit pas le visible, elle rend visible. Il semble que cette phrase de Klee, qui a une signification esthétique très profonde en ce qui concerne l'art moderne, prend aujourd'hui une signification culturelle et sociologique, car l'exposition actuelle du musée d'art moderne remporte, je crois, un très grand succès.
En effet, depuis le début de l'exposition, c'est-à-dire depuis 15 jours, nous avons déjà eu 15 000 visiteurs. Et je pense que, comme elle se termine le 16 février, nous aurons une moyenne de 70 à 90 000 visiteurs.
C'est, je crois, la première fois en France qu'il y a une telle explosion de Paul Klee.
Oui, c'est la première fois depuis 1948, où le musée d'art moderne avait déjà fait une exposition Klee, mais qui avait remporté peu de succès pour diverses raisons. Une de ces raisons est qu'elle coïncidait avec les grandes grèves de 48 et qui avait interrompu l'exposition. Je crois d'ailleurs qu'à l'époque, le public français n'était pas mûr pour Klee.
Est-ce que c'est qu'un public qui n'est pas mûr? La peinture de Klee avait mûri déjà depuis pas mal de temps, et au moins pour les peintres, Klee est d'une extrême importance, dès avant la guerre.
Pour les peintres, pour les poètes, pour tous ceux qui avaient eu le bonheur de le connaître, oui. Mais là, je me situe sur le point de vue du grand public, enfin le grand public qui afflue aux expositions depuis quelques années.
Bon, moi, j'aimerais demander à Françoise Nora et à Isabelle Fontaine comment est faite cette exposition, avec quels matériaux, quels tableaux, quels dessins, etc.
Il y a 200 pièces en tout, peinture, aquarelle, dessin, gravure, qui viennent en grande partie de collections privées ou publiques suisses, de la collection du fils de Klee, Félix Klee, qui vit à Berne, de celle de la fondation Klee, du musée de Berne, et puis de collections privées, de gens qui avaient acheté Klee déjà bien avant cette guerre. Il vient beaucoup de pièces également de musées et de collections allemandes, et quelques-unes des États-Unis et d'Angleterre, et puis nous avons essayé de trouver le maximum de choses à Paris, évidemment.
Évidemment, quand on pense à Klee, du premier abord, on pense à la couleur, ce qui est une sorte de tarte à la crème. Mais enfin, Klee a écrit quand il était en Tunisie, la couleur me possède. Cependant, Isabelle Fontaine, pouvez-vous nous dire quelques mots sur le dessin chez Klee? Parce qu'il y a beaucoup de dessins exposés conjointement au musée d'art moderne.
Il y a en effet une quarantaine de dessins exposés. Et il faut évidemment souligner le fait que Klee s'est presque exclusivement consacré au dessin et à la gravure jusqu'en 1914, jusqu'à justement cette période, ce voyage crucial en Tunisie. Et l'exposition insiste évidemment sur cet aspect-là aussi.
Je crois que les voyages de Klee sont plus importants dans l'évolution de sa poésie picturale que l'influence, par exemple, du cubisme ou du futurisme qu'il a pu recevoir à cette époque, là, juste avant la guerre de 14. Quand il dit qu'il est possédé par la couleur au cours de son voyage en Tunisie, en vérité, il est déjà possédé depuis fort longtemps par le dessin. Et toute sa réussite en tant que peintre sera de faire fusionner le graphisme expressif poétique et une sorte de musique colorée. S'il y a chez Klee ce double aspect, l'ambiguïté de son œuvre s'est enrichie par une sorte de lutte entre la couleur et le dessin. Il a triomphé dans cette lutte, et c'est comme ça qu'il est arrivé à être un très grand poète de la peinture. Si nous prenons, par exemple, le ventriloque, qui est une aquarelle assez petite, avec un damier très sourd de ton, et au milieu, le graphisme représentant un personnage dont le ventre est habité par des génies parlants, sans doute, n'est-ce pas, une sorte de subconscient de ce personnage. Il est clair qu'il y a une musique des rapports de ton extrêmement savants, extrêmement raffinés, et plaqué dessus d'une certaine façon, mais pris dans ce canevas, dans cette sorte de trame, il y a le personnage. Et Klee réussit par un ajustement de ton, par un assombrissement de certaines parties, par la mise en valeur des éléments essentiels qui sont au milieu, cette fusion de l'imaginaire et du réel dont les surréalistes ont tant parlé et qui peut-être provoquerait chez nous une discussion sur l'aspect surréaliste ou non de Paul Klee.
Et c'est justement pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'expression « poésie picturale ». Je comprends bien ce que René Passeron veut dire, mais il ne faudrait pas, je crois, que la phrase signifiât « rêve pictural ». Je crois qu'il faut préciser, et que quand on pense à la poésie picturale de Klee, c'est à une rigueur poétique qui, pour ma part, me fait penser à des poètes, d'une part comme Mallarmé et d'autre part comme Michaud.
C'est extrêmement vrai. Mais puisque, Michel Zerafa, vous avez cité tout à l'heure un texte de Klee, j'aimerais citer la suite de ce texte, qui est assez intéressante pour nous. L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Klee ajoute « Le merveilleux et le schématique propre à l'imaginaire s'y trouve donné d'avance » et, dans le même temps, s'y exprime avec une grande précision. Vous avez ici le merveilleux et le schématique. Le merveilleux et le schématique, ce sont les deux grandes voies, soit du merveilleux pour les surréalistes, soit du schématique pour les abstraits. Et dans quelle mesure cette poésie picturale n'a pas réussi à dominer, à faire la synthèse de deux grandes voies plastiques du XXe siècle, c'est ce que je me demande. Je réponds tout de suite. Pour moi, Klee a réussi à faire cette fusion-là.
Sans aucun doute. Et ce qu'il y a de tout à fait étonnant, c'est la conscience de lui-même qu'il avait, parce que ses textes théoriques, à mon avis, sont moins intéressants sur les programmes qu'il donne aux élèves du Bauhaus que comme réflexion sur son art lui-même et sur lui-même. Enfin, définir son art comme une fusion du merveilleux et du schématique me paraît ce qu'on peut dire de plus clair et de plus intelligent sur Klee. Et c'est Klee lui-même qui l'a dit, au fond.
Est-ce que le fait même que les gens qui viennent voir cette exposition puissent se trouver enfin libérés de ce faux problème.
C'est ça.
Savoir si la peinture doit être abstraite ou pas abstraite,
exactement.
Si ça doit représenter,
exactement,
ou si ça doit ne pas représenter, moi ça me tend une libération extraordinaire qui est peut-être un peu celle du même type qu'on a quand on va voir du Picasso, par exemple.
Il y a une sorte de soulagement à trouver à l'art de Klee, parce que ça résout les problèmes d'une certaine sécheresse de l'art cinétique actuel qui ne nourrit pas l'imagination ou qui la nourrit rarement.
Il est évident que quand Duchamp condamne dans un texte célèbre l'art rétinien, il s'attaque à tout ce qui n'est pas Klee, à tout ce qui n'est pas cette poésie dont je viens de parler. Les rapports décoratifs, les rapports simplement Chatoyant pour les yeux, c'est intéressant. Mais il y a quelque chose de plus dans l'art pictural. Il y a la possibilité soit d'une poésie qui suscite un monde de sensibilité ou qui élève jusqu'à la connaissance cette peinture. Ce qui me frappe dans la poésie picturale du milieu du XXe siècle et dans ce qu'elle doit être maintenant, c'est qu'elle prend le relais du romantisme qui voulait faire de l'art un moyen de connaissance. Et c'est peut-être là d'ailleurs qu'il y a eu entre les surréalistes et Klee une sorte de malentendu ou une divergence. Klee se charme, s'enchante d'une sorte de fusion cosmique de sa propre personne avec les choses du monde, alors que les surréalistes voulaient faire de l'art et de la peinture l'occasion d'une sorte de délivrance quasi psychanalytique de la libido, n'est-ce pas ?
Oui, mais si Klee, je veux bien que Klee s'enchante, comme René Passeron le dit très bien. Cependant, il y a chez Klee, me semble-t-il, une grille posée à la fois sur soi-même et sur le monde, et cette grille me semble être très rationnelle. Je ne veux pas dire que Klee soit un logicien, et ni qu'il soit quelqu'un de sec, mais quand je pense à grille, je pense à la maîtrise avec laquelle Klee a vu non pas le monde d'une part ni soi-même de l'autre, mais les rapports entre le sujet qui voit et l'objet qui est vu. Quand je dis objet, c'est aussi bien la vie intérieure de Klee. Je pense à cette œuvre où il nous montre rigoureusement dessiné, rigoureusement mis en forme, son propre inconscient, en tous les cas les fantasmes qu'il habite et qui sont à l'intérieur d'une figure. Est-ce que cette rationalité et cette maîtrise de Klee ne doivent pas être mis en rapport avec l'enseignement de Klee au Bauhaus, par exemple?
Je ne suis pas sûre, car déjà avant le Bauhaus, il était... simplement, le Bauhaus lui donnait l'occasion de s'exprimer plus. Son œuvre faite pendant le Bauhaus ne fait que développer les quelques années précédentes.
D'ailleurs, il y a une chose à ajouter, je crois, à ce que vient de dire Mme Nora, c'est qu'au fond, Klee, dès l'origine, est un musicien. Ce que dit Zerafa quand il nous parle de la grille de Klee, une sorte de structure abstraite, ce que Klee, après tout, appelait tout à l'heure peut-être le schématisme, dans quelle mesure cela ne viendrait pas de cet art déjà abstrait depuis fort longtemps qu'est la musique et qui pourtant est riche de sensibilité, riche d'une sorte de possession magique sur le monde de la part de celui qui fait de la musique.
Et qu'on est obligé, au fond, d'utiliser avec un code très savant.
Très certainement, on ne peut pas être musicien d'une manière purement automatique et spontanée. C'est ça aussi qui fait que la poésie n'est pas une simple dictée automatique, mais elle est vraiment œuvre.
Je crois qu'on parle beaucoup de poésie picturale. On pourrait dire aussi tout simplement que Klee est poète. Enfin, il y a tous les rapports de Klee avec la littérature, les poètes. Klee Michaud, beaucoup de poètes ont écrit sur Klee. Nous avons cité des textes, non seulement de Klee, mais de Crevel. Je crois qu'il y a, un rapport évident, enfin... La littérature avait beaucoup d'importance pour Klee, et Klee a beaucoup d'importance pour la littérature,
oui,
pour les poètes
en
particulier.
Je trouve intéressant que vous nous rappeliez un petit peu les rapports, disons, réels qui ont existé entre Klee et le surréalisme, alors justement.
Eh bien, les surréalistes en France ont été les premiers à soutenir Klee et à le diffuser. Il y a eu une exposition en 1925 qui a été... de peu de succès sur le plan du public, si je me souviens bien, mais qui a été très apprécié par les surréalistes qui avaient besoin à ce moment-là de savoir si une peinture surréaliste pourrait exister. En 1925, ils n'étaient pas encore très sûrs que le surréalisme pût donner une œuvre picturale. Certains niaient la possibilité d'une peinture dictée automatique, analogue, disons, à la poésie verbale. Et je crois que la démonstration faite par Klee, dès cette époque-là, de la possibilité d'un dépassement du rationnel, d'un dépassement de l'académisme, d'un dépassement de la formule, d'un dépassement du fait qu'on est dessinateur ou coloriste. Bref, la possibilité d'une peinture qui, selon le mot de Breton, donne sur quelque chose d'autre qu'elle, cette démonstration a été faite. Seulement, par la suite, Le surréalisme a trouvé sa propre peinture, dans de nombreuses œuvres d'ailleurs fort variées, puisqu'il y a tout au point du style dans le surréalisme. Et on a un peu oublié Klee, on l'a laissé dans le Bauhaus, on l'a laissé dans l'abstraction, on l'a catalogué, n'est-ce pas ? Et, disons, les barrières politiques entre...
Oui.
À l'intérieur de l'Europe, à cette époque-là, n'ont pas favorisé les choses, n'est-ce pas ? Et les poètes de la peinture en France, notamment les jeunes de la deuxième génération surréaliste, ont connu Klee sans pouvoir toujours le voir, sans pouvoir toujours regarder ses œuvres, n'est-ce pas ? Alors, les rapports de Klee avec le surréalisme sont des rapports d'abord d'enthousiasme, ensuite de divergence.
Ça reflète beaucoup, d'ailleurs, la propre position de Breton, en réalité, parce que les autres surréalistes... ont été plus attachés à Klee que Breton. Et comme Breton, évidemment, était le maître à penser, il a influencé ses amis, certainement. En réalité, c'est Éluard et Crevel qui se sont le plus attachés à Klee et qui ont le plus sincèrement aimé Klee. Aragon, à l'époque, a préfacé Klee, mais en réalité, c'est désintéressé très vite de Klee.
Il y a une... résurgence de Paul Klee à notre époque. Bien entendu, énormément d'écrivains, d'artistes, de poètes se sont intéressés à Klee. Et pourtant, on a l'impression que c'est de nos jours que Paul Klee, disons, s'installe dans la peinture universelle. Ou dans la culture, si l'on préfère. Et alors, je vais là risquer une question. Je me demande si cet intérêt pour Paul Klee, intérêt qui est attesté par la moyenne d'âge des visiteurs de l'actuelle exposition, ce sont des gens jeunes et très jeunes qui vont voir Paul Klee, je me demande si ce phénomène, Paul Klee, au risque d'être précisément iconoclaste, je me demande si ce phénomène Paul Klee n'est pas allié avec un mouvement auquel nous assistons aujourd'hui, qui est une sorte de mouvement de mixage de différents arts, de l'image vue pour elle-même, je pense par exemple, d'une part à l'art cinétique et surtout d'autre part au pop art et à la pop musique, où des musiques extrêmement diverses se trouvent mêlées pour produire une seule œuvre. Je crois que René Passeron n'est pas du tout d'accord avec ce que j'ai dit.
Oh, pas du tout, c'est beaucoup dire, parce que le pop art, c'est beaucoup de choses. Il est évident qu'il y a chez Rauschenberg, par exemple, des adjonctions, une sorte de fusion des arts, et qu'actuellement, nous assistons à une fusion des arts. Klee n'est peut-être pas à l'origine de cela. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas tellement lui que, par exemple, le dadaïsme, qui a été un extraordinaire manipulateur de techniques. Non, je verrais plutôt dans l'intérêt actuel et des peintres et du public pour Klee une sorte de remontée aux sources de toute une peinture de signes, qui serait celle, si vous voulez, de Dubuffet, qui serait celle même de Vera da Silva
et de
Michaud. Mmh. Au fond, l'abstraction lyrique lui doit beaucoup et on remonte aux sources. De même que Klee voulait lui-même remonter, n'est-ce pas, jusqu'à la matrice, remonter jusqu'aux sources, eh bien, au fond, nous suivons d'une manière un peu initiatique le même chemin en remontant aux sources, notamment de la peinture de signes. Toute la dernière période de Klee qui est représentée dans l'exposition fait éclater la période avant sa mort, quand il fait beaucoup de choses, quand il fait très rapidement ses toiles avec quelques signes simplement dessus. Cela a été repris vraiment après. Ça a été repris non seulement par Pollock, mais ça a été repris surtout par l'abstraction lyrique. Alors nous remontons aux sources. Je crois que le public aussi a quelquefois besoin de se retrouver dans ce que Zirafa disait très bien, être déjà une peinture devenue classique au fond.
Oui.
Entrer dans le musée. Mais à mon avis, ce n'est pas déshonorant pour une peinture d'entrer dans le musée. Au contraire.
Je crois qu'il y a alors quelque chose de très important, c'est l'humour de Klee. L'humour qui est une façon d'aborder l'art le plus sérieux, le plus profond, le plus imaginaire, avec une distance. Je crois que c'est aussi quelque chose de...
Vous m'avez enlevé le mot. Oui. J'allais dire qui dit humour, oui, dit distance.
Voilà.
Et je crois que là, nous abordons un problème fondamental, qui est celui de la distance et de la différence entre impression et expression, comme d'ailleurs Klee le dit lui-même. Il y a chez Klee... une réussite, entre autres, Mais cette réussite peut être précisément contestée par beaucoup de gens. C'est qu'à une époque, où on commence à s'intéresser très profondément à tout ce qui vient de l'inconscient, du subconscient, à tout ce qui peut être spontané, d'une part, Clé accuse cette tendance. Il l'accuse parce que, au fond, il ne fait pas de différence entre ses fantasmes et le monde extérieur, dans la mesure où les fantasmes et le monde extérieur sont pour lui purement et simplement des objets, non pas à représenter, mais à exprimer. Et d'autre part, il met cette vie intérieure, nous le disions tout à l'heure que les surréalistes voulaient le plus possible faire sourdre, il la discipline, et mieux, plus exactement, il l'objective. Et alors là, je crois que je rejoins René Passeron, je ne sais pas si René Passeron sera d'accord avec moi, si je dis que le succès dont jouit Clé à l'heure actuelle n'est pas dans sa science de l'objectivation. Je rejoins le terme de signe que vous avez employé, d'ailleurs.
Le tableau-objet, c'est-à-dire le tableau qui a une indépendance par rapport à toute autre image et toute autre représentation, il est évident que Clé, comme tous les grands peintres du XXe siècle, disons à partir de la Révolution qu'a été l'année 1913, n'est-ce pas, tous les grands peintres ont séparé d'une manière autonome le tableau de la réalité. Clé donc aussi. Mais à l'intérieur même de ce monde d'autonomie picturale, il y a une originalité de Clé, c'est l'extraordinaire nuance, l'extraordinaire finesse de ces glissements du moi à l'autre ou au monde, ou du monde à lui-même. Il y a une perpétuelle ambiguïté entre l'oiseau et l'homme, entre le moi et le visage qu'on regarde. Cette sorte d'humour, comme disait très bien Madame Nora à l'instant, qui va lui faire dessiner un vieillard en train de faire un calcul, ou bien un savant. Cela, c'est extraordinairement la poésie picturale telle que je l'entendais tout à l'heure. Et là, puisqu'on parle des rapports entre Clé et la peinture actuelle, je crois qu'il y a une leçon à recevoir encore maintenant de Clé, car au fond, un grand peintre donne des leçons sans le vouloir, mais d'une manière presque permanente, n'est-ce pas, à toutes les générations, c'est cette leçon de dépassement des formules. Que ce soit la formule cinétique, que ce soit la formule abstrait lyrique, quelle qu'elle soit, il faut qu'une formule débouche sur autre chose qu'elle, sur quelque chose qu'on ne peut pas dire devant un micro, qui est une sorte d'impondérable pictural et qui exige qu'on aille voir la peinture.
Oui, à condition que la formule soit précisément formulée. Moi, je mets toujours l'accent sur les aspects intellectuels de l'art, je sais bien que j'ai tort. Mais est-ce que je pourrais vous demander, aux uns ou aux autres, précisément cette poésie picturale, comme le dit très bien Passeron, comment se traduit-elle sur le plan simplement technique? Car je suis allé regarder les clés avant-hier et j'ai été assez stupéfait de la façon dont, comme le dit Ignace Meyerson, il met la couleur sur la toile. Et moi, je ne sais pas comment Clé met la couleur sur la toile.
Eh bien, ça, c'est très difficile, évidemment, de parler de cela sans être devant les tableaux, mais je crois qu'on pourrait remarquer plusieurs choses. C'est que dès qu'il sent qu'il a acquis une certaine technique, une certaine façon de mettre la couleur sur la toile ou de dessiner, il en change. Et c'est une des choses extraordinaires de Clé, c'est la variété et la succession de ses styles et de ses formules picturales. Comme s'il sentait que, dès qu'on a trouvé une formule, la chose s'use. Et il disait quelque chose de très intéressant sur le dessin même. Il disait à ses étudiants, apprenez à dessiner de la main gauche, parce que de la main droite, vous allez devenir très vite trop adroit, ce qui est une chose merveilleuse.
Oui.
Parce qu'il pensait que, justement, la formule est une chose qui dessèche. Qui dessèche la poésie.
Oui, par exemple, en regardant certaines œuvres, j'ai vu qu'il utilisait la technique avec laquelle Hartung s'est familiarisé, je crois, c'est-à-dire une pointe mise dans la couleur, hein, oui, à certaines œuvres, non?
La technique du graffiti.
Le retrait de la couleur.
Qui est encore fraîche en le grattant, enfin la technique du graffiti.
C'est ça.
Qu'il avait enthousiasmé quand il était allé en Italie, très jeune. Enfin, c'est une des choses qu'il avait découvert très jeune.
Et une des dernières toiles de Clé, dans un recoin, mais je ne dis pas recoin péjorativement, parce que l'exposition est très bien présentée, Ce qui m'a frappé, c'est de voir un être, je dis un être parce que je ne peux pas lui donner d'autres noms, qui m'a fait tout de suite penser à un Picasso d'une certaine époque. Une femme complètement de profil, disons, en coupe,
oui,
comme ça.
Le buste
et un peu monstrueux.
Oui.
À vrai dire, en effet, Klee a plus de variété dans son œuvre que Picasso lui-même. On a dit qu'il y avait 10 peintres en Picasso, il y en a certainement une cinquantaine en Paul Klee. C'est à cause de ce que vient de dire Madame Nora, cette sorte de façon qu'il a de briser toujours avec sa formule pour atteindre la poésie picturale. Et puis aussi, il était peintre foncièrement, non pas parce que la couleur le possédait, mais parce que la matière picturale le possédait. Il fait des aquarelles, il y a beaucoup d'aquarelles chez lui, il a une technique d'aquarelle très extraordinaire. Mais il est matériste. Il est à la fois matériste et aquarelle.
C'est une des choses qu'il reprochait.
Mais oui.
C'est une des choses.
Oui, mais même qu'il l'a reproché à Michaud, d'ailleurs.
Oui.
De la même façon.
Bien sûr. Et alors, on dira aussi qu'il est miniaturiste. Mais on pourrait lui appliquer ce que dit Faucillon de certains miniaturistes gothiques, n'est-ce pas? Que si on agrandissait à l'échelle de la fresque, ça tiendrait le mur, n'est-ce pas? C'est monumental tout en étant de la miniature. Voilà encore une autre ambiguïté.
Et
non seulement, la transparence, c'est le monde de la transparence de l'aquarelle, n'est-ce pas? Mais aussi, c'est un monde matériste, avec ce qu'il peut y avoir d'opaque dans une matière. Et c'est en même temps, souvent le petit format et, disons, la grande échelle.
Comme ça, je trouve tout ça important. Et je me demande si tout à l'heure, cet humour de Klee qu'on a invoqué, sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté, n'est pas foncièrement lié, bon, d'une part à cette diversité des approches, bon, qui peuvent les unes jouer par rapport aux autres, à cette diversité des formes, des couleurs, des moyens, etc., et qui me semble peut-être la raison pour laquelle Klee a cette possibilité, disons, très directe, de lever un certain nombre de barrières inconscientes et de possibilités de leur expression, et qui ne sont possibles que précisément par l'humour. Parce que l'inconscient lui-même est une mise en scène de l'humour par définition. Et il me semble que quand on a invoqué le modernisme de Klee et la possibilité qu'il avait aujourd'hui d'être à la fois représentatif et très un modèle pour un certain nombre de peintres, moi, malgré tout, pour finir, je vois peu Klee dans les peintres modernes, parce que je trouve que fondamentalement, à l'exception de Michaud, sans doute, qui en a reçu cette aventure qui nous a si bien dit dans Aventure de ligne, je trouve qu'ils ont perdu, entre autres dans Klee, ce qui était précisément l'humour, c'est-à-dire la variété et la distance, et Dubuffet, par exemple, le premier.
C'est pourquoi je disais que Klee donne une leçon qui serait bon d'entendre, une leçon d'humour, par exemple. Mais il y a plusieurs sortes d'humour. Il y a l'humour noir, il y a l'humour glacé, par exemple, de Magritte, et l'humour de Klee, quelle sorte d'humour est-ce?
Eh bien, je crois que l'humour de Klee, enfin, ça a l'air est très grand de dire ça à propos du monde, c'est un espèce d'humour métaphysique. C'est une façon d'aborder le monde où tout est sur le même plan, où les hommes, les astres, les escargots sont des éléments naturels dans un univers commun qui ne mérite pas de tels drames. Il y a une façon de dédramatiser en s'amusant le monde et la vie qui est très, très particulière à Klee et qui, je crois, est une des raisons de son succès.
Oui, je pense ici au titre d'une étude de Jean Laude consacrée récemment au Bauhaus et qui s'intitule « Le Bauhaus et l'Europe des utopies ». Je crois qu'il ne faut quand même pas oublier que Klee peint à une époque où un certain optimisme peut encore se faire jour et s'épanouir.
Oui, mais il a eu affaire à tout ce qui, dans l'histoire de son temps, étaient au contraire des raisons de tristesse. Les nazis, notamment, ont vidé les musées allemands de toutes ses œuvres.
Ils ont vendu.
Ils ont placé Klee en bonne place dans l'exposition de l'art dégénéré. Bref, il a été obligé de partir. Toute la fin de sa vie est certainement assombrie par cela, mais Séraphin n'a pas tort de souligner cela. C'est en lui-même qu'il portait un certain bonheur, un bonheur de peintre, un bonheur, comme on dit, un bonheur d'expression. Et la peinture lui sortait des doigts et des yeux, je dirais pas avec spontanéité, ce serait pas tout à fait dans son contexte, mais avec d'une manière naturelle. La nature parlait en lui et lui parlait dans la nature.
Klee ou la nature lucide?
C'était Art et esthétique, Paul Klee, par Michel Zerafa et Raymond Bellour, avec Françoise Nora, René Passeron et Isabelle Fontaine. Émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 décembre 1969, à l'occasion d'une exposition consacrée par le Musée d'Art Moderne à Paul Klee. L'exposition Paul Klee, l'ironie à l'œuvre plus contemporaine, c'est Paul Klee au Centre Georges Pompidou, Musée d'Art Moderne, à Paris, entre le 6 avril et le 1er août 2016. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.